Le journal de 7 heures.
Jean-Claude Mabéa. Bonjour à tous et merci de suivre cette première édition de l'actualité de ce vendredi 5 avril 2019 sur Radio de la Paix à la une de ce 7 heures. Réforme de la CEI, le second round des discussions entre le gouvernement et l'opposition a eu lieu hier, jeudi à Abidjan. Les échos de cette rencontre en début de ce journal. Ouverture de la 12e édition du week-end annuel de gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim hier à Abidjan pour 3 jours. Vous entendrez dans ce journal Nathalie Delapalme, la directrice de la dite fondation, sur les critères de notation de l'indice Mo Ibrahim. Hors de Côte d'Ivoire en Libye, le secrétaire général de l'ONU s'est dit choqué par la souffrance des migrants après la visite d'un centre de détention. Après la revue des titres des journaux de Ben Diakité, Souleymane Katia Ouattara recevra Joséphine Charlotte Maïmakala, la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Vous suivez Radio de la Paix, voilà pour l'essentiel. Bienvenue à tous. L'actualité nationale s'ouvre sur le deuxième round des discussions entre le gouvernement et les partis politiques en vue de la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante, discussions qui ont eu lieu hier jeudi en fin de soirée à la primature sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus de 3 heures de débat n'ont pas suffi pour permettre d'harmoniser les positions sur la question. Junior Cardin était à la primature, suivant son compte-rendu.
Démarré à 15h30, c'est à 19h que les discussions ont pris fin. À l'entame, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a planté le décor.
Au cours de la rencontre du 21 janvier 2019, nous étions convenus que les partis politiques transmettent leurs propositions rédigées au ministère de l'Intérieur afin de constituer des bases pour les discussions donc à venir. Cette seconde phase de rediscussion, de mon point de vue, doit se faire sans passion, avec rigueur et objectivité, parce qu'il est de notre responsabilité à tous de consolider notre démocratie à travers l'organisation.
Au sortir des débats, c'est avec beaucoup d'hésitation qu'une déclaration a été faite à la presse. Bamba Moriféré, porte-parole de l'opposition, indique l'angle des discussions.
En ce qui concerne l'objet, nous avons fait comprendre au gouvernement que notre point de vue était qu'il fallait faire la réforme de la commission pour lui permettre d'être totalement indépendant, puisque le gouvernement parlait de recomposition. Le deuxième point concernait le cadre de discussion. Nous avons souhaité qu'il soit question d'une concertation.
Selon Bamba Moriféré, la rencontre s'est achevée par une proposition pour le prochain rendez-vous.
Mais nous souhaitons que ce cadre soit élargi et qu'il soit plus global et que la concertation soit inclusive et concerne l'ensemble des partis politiques ivoiriens, c'est-à-dire ceux de l'opposition, ceux qui soutiennent le gouvernement et la société civile.
Apparemment, la rencontre de ce jour entre le gouvernement et les partis politiques de l'opposition n'a pas pu aboutir à une avancée substantielle pour la réforme de l'environnement électoral.
Junior Cardin, vie des institutions de la République, retour sur la nomination des 33 sénateurs par le chef de l'État. Comme promis le 1er avril 2019 devant les députés, le chef de l'État a procédé le mercredi 3 avril dernier à la nomination des 33 sénateurs qui étaient attendus pour compléter la liste des membres du Sénat de Côte d'Ivoire. Et depuis la publication de cette liste des 33 sénateurs, chacun y va de sa lecture et commentaire. Pour Geoffroy-Julien Kouao, juriste et analyste politique, cette liste a une forte coloration politique. On l'écoute.
Première remarque, c'est que nous constatons qu'il y a 11 femmes parmi ces sénateurs nommés par le président de la République. C'est une volonté politique affichée quant à la promotion de la jeune féminine en Côte d'Ivoire. Deuxième remarque, c'est que ces nominations ont une forte coloration politique et on a des visages déjà connus, mais il faut aussi noter la présence des membres de la société civile et des personnalités fortes comme Madame Dao Gabala. Et puis, fait remarquable, c'est la présence parmi ces sénateurs d'une dame d'origine européenne. Il s'agit de Madame Delon. C'est une Ivoirienne d'origine française, ce qui montre l'esprit d'ouverture de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans la gouvernance moderne.
Alors, vous dites que cette composition a une forte coloration politique, qu'est-ce à dire?
Regardez bien, à l'observation, On remarque que ce sont des cadres importants du RHDP, mais aussi du PDCI proche de la tendance PDCI Renaissance. Il est évident que le Sénat est avant tout une chambre politique, même si la Constitution lui donne une fonction de proximité. En conclusion, on peut dire que le Parlement a ses deux chambres, il peut fonctionner normalement.
Geoffroy-Julien Kouao, juriste et analyste politique, il était avec Soro Adams. A noter que les nominations intervenues mercredi viennent compléter à 99 le nombre des sénateurs de Côte d'Ivoire. Les 66 autres sénateurs ont été élus à l'opposé des 33 qui, eux, sont nommés par le président de la République. À retenir également que l'installation officielle du Sénat est prévue pour le 11 avril 2019 prochain à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse à présent aux alliances interethniques dans ce journal. Les activités d'inventaire et la caravane de sensibilisation sur les alliances interethniques dans différentes régions du sud, du centre-ouest et de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont rencontré un véritable succès. Moments de partage d'expériences et de fructueux échanges ont permis d'enrichir le rapport d'inventaire, le rendant plus inclusif, tout en contribuant au renforcement des capacités de l'équipe de mise en mission de JIER à septembre 2018. Le dit rapport a été remis hier jeudi au ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, à son cabinet au plateau. Les détails avec vous, Paul-Bénédicte Boulou.
Initié par l'UNESCO, l'UNICEF et le PNUD, ce rapport d'inventaire pour Anne Lemestre, représentante du bureau UNESCO à Abidjan, cette approche des populations à travers les alliances interethniques est un vecteur de pacification entre les communautés.
Le défi est immense, mais surmontable. Je reste convaincue qu'avec les résultats de cette étude et de la caravane de sensibilisation, nous pouvons contribuer à une paix durable en Côte d'Ivoire. Ce projet est en train de permettre à la jeunesse ivoirienne d'être non en marge, mais le point focal du processus de consolidation de la paix.
Maurice Kwaku Bandama, ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, après avoir reçu le rapport des mains de la représentante du bureau de l'UNESCO, se dit heureux.
Nous sommes heureux, nous sommes merci à l'UNESCO d'apporter cet appui à la Côte d'Ivoire pour que ce riche patrimoine ne meure pas. Nous allons travailler pour que nos alliances ne soient pas des valeurs mortes.
Il sera mis en place un comité de réflexion sur les alliances interethniques et autres mécanismes de prévention de conflits.
En tant que ministère ayant la tutelle de ce riche patrimoine culturel, en relation avec vous, madame la chef de l'UNESCO, les ministères compétents, les institutions, la chambre droit et chef traditionnel, le forum des confessions religieuses, je me réserve le devoir et le bonheur de mettre en place dans les prochains mois un comité national des alliances interethniques et interreligieuses.
Pour cette première étape, les villes qui ont été choisies sont Fronan, Yamoussoukro, Gagnoua, Divo, Sikansi, Debrimou, Krenjabo et Adzopé.
Je le disais en titre, l'actualité nationale est aussi marquée par l'ouverture du week-end de gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim. La directrice de cette fondation qui a animé une conférence de presse hier jeudi à Abidjan à l'ouverture de la 12e édition du week-end annuel de gouvernance de la dite fondation sur le thème « La jeunesse africaine, migration, faute d'emploi ». Elle en a profité pour expliquer comment la Fondation Mo Ibrahim note les performances des pays africains. On écoute Nathalie Delapalme.
C'est un indice composite. C'est le même pour chacun des 54 pays. Il n'y a pas des indicateurs pour chaque pays. Ce sont les mêmes indicateurs. Aujourd'hui, c'est un indice qui repose sur plus d'une centaine d'indicateurs qui proviennent de 33 sources différentes. La Fondation Mo Ibrahim elle-même ne produit pas d'indicateurs. Elle se contente de consolider et de rassembler ces différents indicateurs, ce qui permet de gagner du temps aux utilisateurs de l'indice, qu'il s'agisse de la société civile, des gouvernements, des partenaires. C'est un indice que nous avons construit au départ avec la Kennedy School de l'Université de Harvard pour être sûr de la robustesse statistique de cet indice. C'est un tableau de bord qui permet, année après année, à la fois de regarder l'évolution pour chaque pays, de la comparer éventuellement à d'autres pays. Encore une fois, ce qui est important de voir, c'est que c'est un indice consolidé, donc c'est très impartial. Alors, quand on dit gouvernance publique, ça n'est pas la définition, je dirais, venue de l'extérieur. majeur, c'est pas uniquement la démocratie et les droits de l'homme. C'est la capacité d'un gouvernement à délivrer à ses concitoyens un panier de biens et services publics que tout citoyen du 21e siècle est en droit d'attendre de son gouvernement. Donc ça va de sécurité et règles de droit à développement humain, en passant par opportunités économiques durables, par participation et droits de l'homme.
C'était à l'instant Nathalie de la Palme, elle est la directrice de la fondation Mo Ibrahim. À titre de rappel, la Côte d'Ivoire occupe le 22e rang sur 54 pays en Afrique selon la fondation Mo Ibrahim. Rendons-nous maintenant dans la capitale régionale du Ifou où 1116 extraits de naissance ont été distribués aux écoliers de la sous-préfecture de Daoukro le mercredi 3 avril dernier par le sous-préfet de la dite localité. Cette distribution gratuite des extrait d'acte de naissance s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération gouvernementale visant à lutter contre le manque de ce document administratif chez certains écoliers ivoiriens. Plus de précisions sur cette opération avec Koulibaly Zanan, le sous-préfet de Daoukro.
L'État ayant constaté que beaucoup de nos élèves dans les écoles n'avaient pas d'extrait de naissance, du CP1 jusqu'au CM2, a décidé de financer une opération d'enrôlement des élèves. Ça a commencé en 2017 et cette année, nous avons pu signer 1116 extraits en ce qui concerne la sous-préfecture de Daoukro. Et nous avons fait appel à l'inspecteur, au directeur d'école, au chef de village, aux élus pour procéder à la distribution de ces extraits de naissance. Donc nous demandons aux parents qui constaterait des erreurs matérielles éventuelles de venir rapidement dans nos services pour les corrections. Et nous espérons que ce soit la dernière opération. C'est-à-dire à partir de maintenant, nous ne souhaiterons plus voir un élève qui n'est pas d'extrait de naissance. Et pour ce faire, nous encourageons les parents à déclarer les enfants qui naissent. Nous avons jusqu'à 3 mois pour faire la déclaration de naissance et c'est gratuit. Donc vraiment, nous demandons aux parents, toutes les fois qu'un enfant naît, de se rendre à la sous-préfecture ou à la mairie pour faire la déclaration de cet enfant. Parce que l'extrait de naissance, c'est la base de l'existence d'un enfant sur la terre. Ne pas le faire, c'est très dangereux pour l'enfant. Et c'est très dangereux même pour le pays.
Koulibaly Zanan, sous-préfet de Daoukro, il était au micro d'Emile Yao. On reste à Daoukro où une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, a échangé le mercredi 3 avril avec les leaders d'opinion des localités de la sous-préfecture en vue de l'identification des ménages économiquement faibles. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. Plus de détails avec Kwame Yves de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Dans le cadre de la couverture maladie, on a deux régimes. Le régime contributif où on paye 1000 francs par mois et par personne, et le régime non contributif qui est le régime d'assistance médicale où ces personnes qui constituent ce régime-là sont prises en charge à 100% par l'État. Mais ceux-là, c'est seulement que les Ivoiriens. Donc pour les avoir, il faut mener une enquête pour les rechercher. Donc c'est dans le cadre de cette enquête-là que nous sommes là pour mobiliser les 7 sous-préfectures de Daoukro afin de recevoir des agents enquêteurs qui viendront dans le cadre de l'identification des ménages économiquement faibles. Donc il va falloir d'abord sensibiliser les leaders communautaires qu'on a invités, c'est-à-dire le chef du village, la présidente des femmes et le président des jeunes. Donc on a passé l'information comme quoi il y aura des agents enquêteurs qui vont venir dans la localité, précisément la semaine prochaine. Ils vont faire peut-être 2 ou 3 semaines dans le département. Ils iront de village en village et de ménage en ménage pour administrer un questionnaire afin de rechercher des personnes qui ont des difficultés à payer leur cotisation mensuelle de 1000 francs. On aimerait bien que ces leaders communautaires qui sont venus arriver au village, qu'ils puissent relayer l'information qu'on leur a donnée, qu'ils accueillent ces personnes-là, qu'ils mettent à leur disposition les documents administratifs, carte d'identité, extrait de naissance, afin de pouvoir collecter de bonnes informations, surtout au niveau des noms.
Les propos de Kwame Yves de la Caisse nationale d'assurance maladie ont été recueillis par Emile Yao. Il est 7h passées de 14 minutes ici à Abidjan, précisément à Sebroko, à Tekoubé. Vous écoutez Radio de la Paix. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué jeudi à l'AFP avoir été choqué par la situation dramatique des migrants après avoir visité un centre de détention à Tripoli. Selon le patron de l'ONU, cette situation n'est pas de la responsabilité de la solidarité Libye, mais aussi de toute la communauté internationale. Et l'opposition burkinabé s'est inquiétée ce jeudi de la multiplication des affrontements intercommunautaires au Burkina Faso après des représailles consécutives à une attaque djihadiste ayant fait 62 morts à l'issue d'une rencontre avec le président Rochemark. Christian Kaboré nous apprend l'agence France Presse. Retour en Côte d'Ivoire pour parcourir la une des quotidiens ivoiriens parus ce vendredi avec Ben Diakité qui vient à l'instant de nous rejoindre en studio. Bonjour Ben.
Bonjour Mabéa, bonjour à tous. Deuxième round des négociations gouvernement-opposition sur la réforme de la commission électorale indépendante hier à la primature. Déjà un premier accord, note en sa une le Patriote. En termes d'accord, les partis en discussion ont convenu de créer un cadre de concertation tripartite, pouvoir, opposition et société civile, ce qui fait écrire l'expression que le gouvernement et les partis politiques d'accord pour poursuivre les discussions. Notre voix parle de 4 heures d'échange de vérité entre opposition et pouvoir. Le temps relève de gros désaccords sur plusieurs points. Autre actualité, après la nomination de 33 nouveaux sénateurs, ce que Ouattara réserve aux sénateurs PDCI, quoi savoir à Le Temps, ce journal spécule également sur le sort réservé au président de cette institution, Aoussou Jeannot. Autre rencontre à la primature aujourd'hui, syndicat d'enseignants Gonkoulibaly, jour de vérité aujourd'hui. Le quotidien d'Abidjan dresse un visage un peu reluisant de l'école ivoirienne. Ce quotidien barre à sa une, école ivoirienne, tout est encore mélangé, des blessés graves et de nombreuses arrestations.
Merci à Ben Diakité que vous retrouverez à 8h. L'invité de la rédaction à présent, et c'est la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire qui a entrepris des rencontres avec les acteurs politiques ivoiriens. Mardi, elle a rendu visite au président du PDCI RDA pour partager la vision de son organisation en ce qui concerne le processus électoral. Joséphine Charlotte Mayumakala est l'invitée de la rédaction pour évoquer les enjeux de ses visites. Elle est interrogée par Souleymane Katier Ouattara.
Joséphine Charlotte Mayumakala, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rendu visite au président du PDCI RDA. Dans quel contexte se situe votre démarche?
Comme vous le savez, il y a une élection présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire. Et pour cette raison, l'Union africaine fait une diplomatie préventive. L'Union africaine prévient les conflits qui sont souvent occasionnés par l'organisation des élections en Afrique. C'est la raison pour laquelle, pour préparer un climat apaisé, pour sensibiliser les acteurs politiques ivoiriens à rassurer la population, à rassurer les électeurs, à rassurer tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire que l'élection sera paisible. Le bureau de l'Union africaine est en train de prendre contact avec les acteurs politiques ivoiriens.
Vous parlez d'une démarche préventive. Y a-t-il des signes qui montrent une certaine tension à un peu plus d'un an de cette échéance?
La tension n'est pas inquiétante en ce moment, mais les signes existent. C'est qu'on assiste à des violences verbales de la part d'hommes politiques ivoiriens. On assiste à des actes qui ne sont pas paisibles, qui ne rassurent pas. Il y a des actes qui inquiètent la population, les autorités donnent des assurances, en l'occurrence le président de la République, il l'a dit encore à l'ouverture de la dernière session de l'Assemblée nationale, que l'élection sera paisible, que toutes les dispositions sont prises, mais au niveau de l'Union africaine, et dans le cadre de notre mandat de préparer, de faire une diplomatie préventive.
L'un des points qui focalise l'attention en ce moment, c'est certainement la question relative à la CEI, la Commission électorale indépendante. Il y a eu l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui est diversement interprété par les différents acteurs. En avez-vous parlé avec le président du PDCI RDA?
Oui, certainement. Cette question est vraiment à l'ordre du jour, et l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demandait à la Côte d'Ivoire de revoir la composition de la commission électorale. Cet arrêt a fini par ramener toutes les parties prenantes à se retrouver dans un dialogue qui se tient en ce moment entre tous les acteurs politiques, opposition d'un côté, le gouvernement de l'autre, ainsi que la société civile, pour que le contenu de cet arrêt soit mis en application. Donc il y a des négociations, il y a un dialogue en ce moment qu'il faut encourager. C'est ça qui va contribuer à l'apaisement du climat avant cette présidentielle. Cette question a été évoquée naturellement.
Et justement, il y a des interprétations qui divergent. Les uns disent qu'il faut faire table rase de l'existant pour reconstruire, alors que pour d'autres, il faut procéder à des réajustements. Quelle est votre position?
La position de l'Union africaine, c'est donner de la chance à ces négociations. Le dialogue est une des valeurs que préconise l'Union africaine. Il faut donner de la chance à toutes les parties prenantes qui ne s'entendent pas. Chacun vient avec des revendications. Et à la fin de ce dialogue, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que les deux parties, les trois parties, que tout le monde puisse entendre, qu'il y ait un consensus qui permettra à chacun de se retrouver. C'est ce que préconise l'Union africaine, c'est une bonne chose. Nous avons dit bravo à ce dialogue et laisser le dialogue arriver à dégager un consensus.
Pourquoi avez-vous choisi spécifiquement de rendre visite au président du PDCI RDA?
Le choix n'est pas porté seulement sur le PDCI RDA. Nous avons été chez le président Bédier et dans les jours à venir, vous nous verrez chez d'autres acteurs. Il y a une diplomatie qui se fait parfois de manière silencieuse, mais il y a une diplomatie aussi qui est accompagnée d'une communication. Nous allons poursuivre ces visites et nous irons voir les autres également.
Comment voyez-vous l'avenir politique en Côte d'Ivoire?
Je suis très contente de la situation en Côte d'Ivoire. Je fais confiance aux frères et sœurs ivoiriens. Je suis sûr que nous aurons une belle élection en 2020 comme celle que nous avons eue en 2015. C'est la raison pour laquelle il faut déblayer le terrain, il faut contacter tout le monde, que les gens mettent bas la terre, qu'il y ait un langage nouveau, que ne nous ramène pas vers du déjà vu, du déjà entendu, que tout le monde fasse un effort pour que quand les autres vous entendent, qu'ils puissent vous applaudir et non pas regretter ce qui sort de votre bouche. Comme disait le président Offuet Boigny, la paix doit être un comportement. On doit sentir par vos paroles que vous êtes un homme épris de paix.
Joséphine Charlotte Mayumakala, merci.
Merci, la radio de la paix.
Joséphine Charlotte Mayumakala est la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Elle était l'invitée de la rédaction de ce vendredi. Elle se prêtait aux questions de Souleymane Katia Ouattara. Entretien à réécouter dans l'édition de 12h. Mais avant, le rappel de l'essentiel. Réforme de la CEI, la commission électorale indépendante. Le second round des discussions entre le gouvernement et l'opposition a eu lieu hier, jeudi, à Abidjan. Vous avez eu les échos de cette rencontre en début de ce journal. Ouverture de la 12e édition du week-end annuel de gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim. C'est depuis hier que ça a été lancé à Abidjan et ce pour 3 jours. Nathalie Delapalme, la directrice de la dite fondation, a expliqué dans ce journal les critères de notation de l'indice Mo Ibrahim. Hors de Côte d'Ivoire, en Libye, le secrétaire général de l'ONU s'est dit choqué par la souffrance des migrants après la visite d'un centre de détention à Tripoli. 7h23, ici à Abidjan, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous à 8h pour un nouveau point sur l'actualité. La suite des matins de Radio de la Paix, c'est maintenant et c'est toujours avec Jean-Claude Comé.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter, s'entendre, se comprendre.